ravie de vous retrouver sur l'antenne de Radio Judaïca Lyon. Patricia Drey avec vous pour une heure pour parler littérature comme chaque semaine. Alors, c'est la dernière émission de l'année puisque la semaine prochaine et le 29 décembre, j'aurai le plaisir de vous présenter, de vous proposer, pardon, un best-of. Et puis, nous redémarrerons le 5 janvier en direct chaque semaine avec le plaisir toujours renouvelé de recevoir des auteurs pour découvrir leurs œuvres respectives. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, un invité de marque, Gérard Netter, pour son livre Rhinocérite 19, paru aux éditions Horizon, dans la collection Littérature, un livre tout à fait étonnant que je vous invite à découvrir, Rhinocérite 19. Donc nous parlerons de cet ouvrage avec Gérard Netter, son auteur. Ensuite, nous découvrirons la chronique de Nicole Skinazitoboul consacrée à ce mot qui doit vous intriguer certainement, ce mot de rhinocérite. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir une auteure lyonnaise, une auteure littérature jeunesse. Elle s'appelle Marie Garnier et elle a un parcours tout à fait étonnant. Elle viendra nous parler de son dernier livre, Enzo et le géant de plastique, destiné donc à un public jeune. Mais plus largement, nous évoquerons l'ensemble de son œuvre, puisqu'elle a écrit depuis une bonne vingtaine d'années, un certain nombre d'ouvrages à destination d'un jeune public. Mais tout de suite, comme promis, bonjour Gérard Netter.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur Radio Judaïca Lyon. C'est la première fois que je vous lis et que je vous reçois grâce à mes amis Joël Vincent et Sarah Holling, que je remercie d'ailleurs au passage. C'est une très belle découverte, hein, je dois dire. Quelques mots peut-être pour vous présenter. Vous êtes donc docteur en psychologie clinique de l'éducation, donc ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Vous avez enseigné, je crois qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, non?
Oui, je suis à la retraite, oui. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir pas mal d'activités.
D'activités, évidemment, on l'aura compris. Et vous avez notamment enseigné auprès d'élèves en situation de handicap. Je parlais tout à l'heure, dans le sommaire de cette émission, de Marie Garnier, qui est une auteure de littérature jeunesse qui a eu une véritable vocation lorsque sa fille est née avec un handicap. Et donc, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien.
Oui. Je me suis beaucoup occupée de mettre en place des projets d'accueil pour ces enfants dans les classes.
Oui, ouais. Oui, c'est vraiment formidable. Et je crois que depuis quelques années, quand même, de gros efforts ont été faits, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup à faire. Hein. Mais aujourd'hui, c'est donc l'écrivain que j'ai le plaisir de recevoir. Vous avez publié plusieurs ouvrages, seul ou en collaboration. Et le dernier publié dans la collection Horizon, Daniel Cohen, s'intitule Rhinocérite 19. Évidemment, une référence au Covid-19 qui nous occupe et nous préoccupe depuis bientôt 2 ans.
Hein. Tout à fait.
Alors, comment résumer ce livre passionnant et troublant? Peut-être quelques mots pour présenter l'histoire que vous nous racontez. Votre héros, Isaac, est professeur de littérature à la Sorbonne. Il est spécialiste de la Renaissance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son quotidien est soudain bouleversé. Dès le début du livre se pose la question de son identité, une identité à la fois floue et double. Expliquez-nous un petit peu comment a germé cette idée dans votre esprit, Gérard Netter.
Alors, le Covid est un virus, et j'ai imaginé que ce virus s'attaquait à ce qui nous sert de contenant, ouais. C'est-à-dire à ce qui nous empêche de partir dans tous les sens, notamment en contenant notre désir de toute puissance. Ouais. C'est-à-dire que en s'attaquant à ce contenant, à cette enveloppe, à cette frontière-là, à cet interdit-là, et le virus libérait toutes les passions tristes, toute la haine, toute la difficulté à communiquer et à entrer en relation avec l'autre. Mmh. Et ça fait partie du constat que je fais dans la société, dans l'évolution de la société, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui brusquement avait brisé les interdits. Mmh. Voilà.
Alors, est-ce que ce roman est né de votre réflexion pendant cette pandémie et pendant les confinements que nous avons connus l'an dernier?
Non.
Non, pas du tout.
Non, ça m'a servi de prétexte, mais c'est une réflexion que j'ai depuis un moment.
Oui.
Alors sur le mot sur l'identité, sur l'identité, en fait, c'est l'idée, c'est que c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui c'est la conscience d'un mouvement, en fait. Une identité, c'est quelque chose qui bouge, et à chaque fois qu'on est figé dans une identité, eh bien on est un peu empêché. Voilà. Oui. L'identité, ce n'est pas, je dirais, c'est ce que l'on fait de ce que les autres font de nous. Oui. Je suis ce que je fais, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est en devenir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un chemin.
Oui. Vous dites qu'il n'y a pas d'identité figée. Vous écrivez à la fin du livre, on y apprend que l'identité est une construction et qu'elle s'élabore dans la relation à l'autre. Et un peu plus loin, vous dites, l'identité doit tenir compte du mouvement. Elle est en perpétuelle évolution. Il y a des continuités, des ruptures, des transformations. Et dans cette évolution, la relation à l'autre joue le premier rôle, avec au centre l'étrangeté, l'énigme. C'est intéressant, oui, cette approche de l'identité que vous nous proposez.
Absolument, absolument. Je crois que c'est exactement vrai. Et c'est en rentrant en relation avec l'autre, oui, qu'on apprend à se connaître. Mmh. Et il faut une ouverture à l'autre pour continuer à se connaître.
Exactement. Voilà. Et c'est ce que l'on voit en suivant votre héros Isaac, qui va découvrir au fil des rencontres et au fil de ses relations avec les autres, on n'en dira pas plus pour le moment, qu'en fait son identité n'est peut-être pas forcément celle qu'il croyait. C'est un peu compliqué de parler de ce livre, parce qu'il ne faut pas dévoiler pour laisser le plaisir intact au lecteur de la découverte, mais c'est un petit peu ça, une identité floue, une identité double, et c'est dans sa relation à l'autre, aux autres, qu'il va être confronté à cette question.
Oui, c'est tout à fait cela. Vous parlez très bien de ce que je veux dire.
Ah, ben c'est parfait. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire. Ce livre est très étonnant, je le disais, et on ne le lâche pas jusqu'à la fin. On a envie d'aller plus loin dans cette découverte de l'identité de votre héros, qui s'appelle donc Isaac Alcofribas, rétif de Roumillac. Alors là, vous n'avez pas fait dans la simplicité pour son patronyme, hein.
Oui. Enfin, c'est vrai qu'on explique pourquoi.
Bien sûr.
C'est beau. Je voulais souligner que Rhinocéride, ça fait référence à Ionesco.
Ionesco, bien sûr.
La pièce de
Rhinocéros. Bien sûr.
Où on voit que les gens qui sont des humains se transforment petit à petit. Il y a quelque chose d'inhumain qui les transforme. Oui. Qui les transforme en rhinocéros. Mmh. C'est la montée, ce que décrit Ionesco, c'est la montée d'un fascisme, hein, du nazisme, qu'il décrit de cette manière-là, où il voit ses amis devenir des rhinocéros. Oui. C'est un peu ce qui se passe dans mon roman. Ce Covid transforme les gens, les rend un peu inhumains, c'est-à-dire inhumains au sens où ils ne respectent pas l'interdit, qui est l'interdit de toute puissance, oui, voilà, qui est l'interdit d'être Dieu. Oui. En fait, d'être Dieu dans la réalité. On peut rêver de maîtriser un monde dans l'art, dans le symbole, mais pas dans la réalité. Dans la réalité, la toute-puissance, c'est une fermeture aux autres. Mmh. C'est une agression, une fermeture aux autres.
Exactement. Vous faites référence, on l'a dit, à cette pièce Rhinocéros de Jeanne Ionesco, et vous dites, page 76, une épidémie ravage l'humanité. Elle transforme tous ceux qui l'attrapent en rhinocéros, donc. Métaphore tout à fait intéressante, puisque les malades ne peuvent même plus se cacher derrière un masque, tellement la perte de l'humanité est devenue visible. Alors évidemment, en cette période de Covid, qui n'en finit pas d'ailleurs, vous nous parlez de masques, ça nous parle, hein, évidemment.
Oui, bien sûr. C'est un double clin d'œil, oui, à la pièce de Ionesco et, oui, à ce virus qui ne nous lâche pas.
Exactement. Ouais. Oui. Alors, pour en revenir à votre héros Isaac, vous faites référence à plusieurs reprises à l'origine de ce prénom, hein, Yitzhak, il rira. Et j'ai beaucoup aimé le passage, alors attendez, j'essaye de le retrouver, le passage au tout début du livre où vous expliquez en hébreu cela signifie rire, c'est même une prophétie, on on entend « il rira ». Le rire n'est-il pas le propre de l'homme ? J'aimerais que mon fils n'oublie jamais l'humanité qui est en lui. Ça, c'est une parole du père d'Isaac, Sébastien, qui a beaucoup marqué son fils, évidemment. Sébastien et Maryse, donc les parents d'Isaac, qui souhaitaient inscrire, vous dites-vous, leur fils dans la judaïté.
Oui.
Expliquez-nous un petit peu, parce que ce n'est pas de leur part une préoccupation religieuse, hein.
Non, non, mais la judaïté ne se résume pas à la religion. Il
oui.
Y a une histoire, une tradition, et là ils sortent de Sébastien et le père d'Isaac,
oui.
qui est rescapé de la Shoah.
Exactement.
Il est complètement marqué. Il ne peut pas en parler. D'ailleurs, c'est parce qu'il ne peut plus parler qu'il s'est intéressé à la langue de Rabelais.
Oui.
Et qu'il a réappris à parler à travers la langue de Rabelais.
C'est ça.
Qui est une langue humaniste, qui est la langue de l'humanisme, en fait. Et d'un humanisme un peu provocateur. Ça traduit une difficulté pour Sébastien de se remettre en route dans ce monde actuel après qu'il a vécu, qui irradie tout.
Oui. Hein,
c'est comme une irradiation nucléaire. On ne peut plus se remettre complètement. Et il ne veut pas. Il veut garder la tradition, c'est-à-dire l'histoire.
Oui.
C'est-à-dire ce dont il ne peut pas parler, il ne veut pas l'oublier vraiment. Et il veut que ça le relie à quelque chose.
Ouais,
voilà.
Exactement. Alors vous dites dès le début du livre que Sébastien, donc le père d'Isaac, était un humaniste, libre penseur, un brin provocateur, qui préférait la parodie et la satire aux discussions trop sérieuses, jugées sinistres. C'était un adepte de Pierre Dac et de Francis Blanche. Alors ça, évidemment, ça ne peut que le rendre sympathique. Et le père d'Isaac s'était pris de passion pour l'auteur de Gargantua. Il vénérait sa langue à la créativité inépuisable, son sens de la farce, ses calembours déroutants. C'est à travers la langue qu'il s'est réapproprié un petit peu sa vie finalement, hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est à travers la langue qu'il a réappris, mais il ne peut plus avoir qu'un regard décalé sur ce monde.
Oui.
Il ne peut plus avoir qu'un regard décalé qui gêne d'ailleurs beaucoup.
Bien sûr, Isaac. Oui.
Il gêne beaucoup Isaac parce que il se rend compte que son père est toujours à côté.
Oui,
il ne rentre pas dans les discours sérieux, dans lesquels rentrent les hommes de son âge. Mmh. Et tout le monde le regarde un peu avec un air un peu à la fois étonné, avec un air de compassion.
Oui.
Et ça gêne beaucoup. Isaac.
Ouais. Alors, Isaac, la grand-mère maternelle d'Isaac, Esther, lui disait, avec le prénom que tu as, il vaut mieux ne pas faire de politique, on te reprochera toujours de t'appeler Isaac. On voit à quel point le choix de ce prénom était important pour les parents, pour le père surtout d'Isaac, mais combien ce prénom va peser, finalement, va être influent sur toute la vie de votre héros.
Oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est le seul prénom qu'il accepte de porter vraiment.
Oui.
L'autre le dérange beaucoup. Donc, il se fait appeler, en fait, Isaac Rétif.
Exactement, oui. Il simplifie son nom dans un souci peut-être de... Oui, pour s'épargner peut-être les remarques et les remarques désobligeantes peut-être de ses interlocuteurs.
Oui, parce que en réalité, ce qui le gêne plus que Isaac, c'est Alcofribas, c'est la deuxième partie de son prénom.
Exactement.
Que personne ne connaît, qui est en fait l'anagramme de prénom de l'anagramme de François Rabelais. Mais Sébastien a choisi ce deuxième prénom en connaissance de cause, puisqu'il se réappropriait, il a redécouvert Rabelais en sortant, et qu'il voulait emmener son fils vers la littérature de Rabelais, vers l'humanisme de Rabelais. Donc en fait, il y a et la truculence.
Bien sûr, de rappeler, légendaire truculence. Hein. Alors, Isaac est donc le fils de Sébastien et Maryse. Il a une compagne qui s'appelle Nelly, qui est architecte. Il vit avec elle depuis une trentaine d'années. Alors finalement, on a l'impression au début du livre que, ma foi, il a une vie tout à fait, pas ordinaire, mais tout à fait tranquille. Et puis, soudainement, Isaac est accusé par ses étudiants de racisme, de sexisme et carrément du meurtre d'un éditeur. À partir de là, tout va s'emballer. Comment avez-vous eu l'idée de cet enchaînement de faits et d'anecdotes finalement qui vont se succéder les unes aux autres ?
Alors, ça, les idées viennent comme cela, en marchant. Comme disait Fernando Pessoa, le chemin vient en marchant. Je suis. Beaucoup de mes romans se passent dans des atmosphères un peu oniriques, un peu de rêve, soit de cauchemar, soit de rêve un peu étonnant, parce que je crois que dans cette atmosphère là, on est dans un entre-deux, un entre-deux qui n'est ni vraiment la réalité ni vraiment le rêve. En fait, c'est l'espace de la création pour moi. C'est quand je laisse aller les idées par association s'enchaîner comme cela. Et je ne sais pas si ça parle aux gens ce que je suis en train de dire, mais je n'ai pas de plan pour écrire le roman. D'accord. Ça vient comme cela. Les personnages m'entraînent. Ouais.
Alors, au fil du livre, on découvre un phénomène assez inquiétant, des livres qui sont brûlés. Et pour autant, certaines pages sont sauvées et votre héros, Isaac, est confronté à plusieurs reprises à ce phénomène assez étrange d'auto-da-fé. Il y a des choses intéressantes d'ailleurs dans ce que vous présentez dans ce livre. Vous citez la phrase d'Erasme, on commence par brûler les livres, on finit par brûler les personnes. On imagine évidemment l'impact de cette phrase pour votre lecteur. Hein.
Oui, bien sûr, Oui, il y a quelque chose d'angoissant qui est une espèce d'apparition de ce que j'appelle l'inhumain, qui est la barbarie, qui est le retour des vents mauvais, on va dire. Et ce quelque chose d'angoissant, je l'ai fait aussi apparaître par des livres qui brûlent, mais ils ne brûlent pas totalement. Ce n'est pas n'importe quel livre, des livres qui m'ont marqué. Et ces livres, on arrive à les sauver, mais à sauver deux, trois pages ou deux, trois phrases.
Les plus importantes, sans doute.
Et c'est le plus important. Et ça marche comme, en fait, le rôle de la littérature, c'est d'amener le lecteur à poser des questions, c'est de se poser des questions sur lui, qui il est, comment il fait, etc. Et les phrases là qui surgissent de ces livres c'est comme des messages, c'est comme des messages envoyés. C'est-à-dire que il le dit d'ailleurs. Si on lisait le livre en entier, peut-être qu'on remarquerait pas ces phrases-là. Donc c'est peut-être des signes qu'on nous envoie pour réfléchir, pour penser, pour se poser des questions, en fait.
Ouais, absolument. Alors, la littérature, vous en parlez à de nombreuses reprises, le rôle de la littérature, donc vous en parlez à de nombreuses reprises dans ce livre. J'ai noté un passage qui m'a particulièrement interpellée. La littérature est une transposition de la vie. L'écrivain prend un morceau de vie, il le déplace, le déconstruit et le reconstruit sur un autre plan, un plan symbolique. Avec des mots écrits, il élabore une nouvelle mise en ordre de ce petit morceau de vie prélevé et il nous permet de nous voir, de nous éprouver de manière plus riche, plus intense, plus forte. À travers les images, la musique des mots, à travers une fiction imaginaire, nous approchons d'un peu plus près la vérité de ce que nous sommes dans notre relation aux autres, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation au monde. Je trouve que cette définition de la littérature est et complète et parfaite. Et c'est ce que nous cherchons sans doute, nous les grands lecteurs, à travers la littérature, non ?
Je crois. Oui, je crois que c'est cela. La littérature, c'est comment dire ? Le monde est un espèce de chaos mis un peu en ordre pour qu'on lui donne du sens.
Oui.
Et l'écrivain, il déconstruit, il reconstruit, il met un autre ordre. Et ça amène le lecteur à se poser des questions un peu différemment.
Exactement.
Ou à se voir un peu différemment. Et c'est cela qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on tourne autour. Je parle du silence, le silence dans ce sens-là, c'est l'énigme.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est les limites. Il y a dans tout ce que nous savons du non-savoir, des choses, des énigmes, quelque chose qu'on ne sait pas. Je parle de savoir parce que je me positionne aussi un peu en chercheur. Okay, le chercheur, il regarde ce que l'on sait et il sent la faille dans le savoir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'il faut aller chercher.
La zone d'ombre.
Ouais. Et bien, dans la littérature, l'art, En général,
bien sûr.
En général, la littérature en particulier, mais l'art en général, c'est pareil pour la peinture. On essaye de, tout d'un coup, de montrer ce qu'on ne voit pas et pour ça, il faut reconstruire un ordre. Il faut
Exactement.
Reconstruire du sens autrement. Mmh. Voilà.
Alors, vous parlez de façon magnifique, vraiment, de la littérature en général et de la poésie en particulier. Et là, je fais un petit clin d'œil à notre amie commune Joëlle Vincent, qui est une poétesse magnifique. La poésie, c'est quand le silence parle en nous. Le silence est la source de la littérature et la littérature ne doit pas l'effacer. Elle s'en nourrit, elle le vénère, elle le respecte, elle l'habille, elle le met en valeur. C'est magnifique. Vous parlez de la poésie, de la littérature d'une façon absolument formidable. Et puis, alors, de nombreux thèmes sont abordés hein, dans ce livre. On n'a pas le temps, malheureusement, de tous les traiter. Mais vraiment, j'invite nos auditeurs à le découvrir, ce livre, parce que, je le disais, de nombreux thèmes, comme par exemple l'importance des réseaux sociaux. Vous en parlez à de multiples reprises et vous parlez de cette vérité montrée, vérité entre guillemets, hein, évidemment, montrée sur les réseaux sociaux qui ne correspond pas complètement à la réalité, si j'ose dire.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Et il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension où on a l'impression, si on s'arrête sur certains messages écrits dans les réseaux sociaux, que pour qu'il y ait existence d'un fait, il faut qu'il soit sur les réseaux.
Exactement, qu'il soit publié sur les réseaux sociaux.
Qu'il soit publié sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc il y a ça, mais il y a aussi, je crois que je lui fais allusion, l'impression qu'on peut se surveiller sur les réseaux
Exactement.
Sociaux.
Exactement.
On peut se surveiller les uns les autres.
Ouais.
C'est-à-dire, je peux savoir si tu as mis un cœur ou si tu as mis un pouce levé à tel ou tel, et voilà, je te surveille, voilà. On peut se surveiller les uns les autres. Voilà, il y a des tas de choses intéressantes dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi quelque chose qui mérite en tout cas un questionnement.
Ouais. Et pour rester sur ce thème des réseaux sociaux, vous évoquez à plusieurs reprises cette phrase que Nelly, la compagne d'Isaac, lui dit très souvent. Tu sais bien que seul ce qui est publié sur les réseaux sociaux a une réalité aujourd'hui, le reste n'existe pas. Alors, les réseaux sociaux étant récents dans nos vies, étant apparus relativement récemment dans nos vies, on va sans doute trouver un bon moyen de les apprivoiser, de les utiliser à bon escient, mais en tout cas, on sent que c'est chez vous une, alors peut-être pas une inquiétude, mais en tout cas un questionnement.
Oui, c'est clairement un questionnement. Oui. C'est clairement un questionnement, c'est-à-dire que c'est très riche parce qu'on peut parler à des gens auxquels on ne parlerait pas.
Oui, bien sûr.
Sans les réseaux sociaux.
Bien sûr.
On fait des très bonnes rencontres sur les réseaux sociaux.
Évidemment.
On peut avoir des très bons échanges. Oui. Et en même temps, il y a des questions à se poser. C'est-à-dire, est-ce que c'est, voilà, comment, on passe beaucoup de temps. Et puis, il y a les réactions, puisque, Isaac, il écrit un poème. Mm. à un moment. Et on lui reproche d'avoir... Et les critiques, il s'y attend pas aux critiques qui surgissent à partir de ce poème. Mais en général, on attend des cœurs ou des likes, et il y a quelque chose de très narcissique qu'on cherche.
Bien sûr.
Mais si on n'en reçoit pas, c'est très violent.
Et c'est frustrant.
Si on doit attendre, c'est très violent. Donc on est dans... C'est vrai que ça prend de la place, les réseaux sociaux.
Ouais, évidemment. Alors, je le disais, de très nombreux thèmes sont abordés dans ce livre. Le mystère, le secret, la littérature, on l'a dit. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache, écrivez-vous, page 211. Et puis, pour terminer, je voudrais citer cette phrase que vous mettez en exergue de votre livre, Gérard Netter, une phrase de Yehuda Amichai. « À l'endroit où nous sommes sûrs d'avoir raison, aucune fleur ne poussera au printemps. » En fait, vous nous invitez au questionnement permanent dans nos vies.
Oui, tout à fait, on est fort de ces failles,
oui.
On est fort de ces failles et de ces incertitudes et de son ignorance, c'est-à-dire que il faut reconnaître tout cela pour pouvoir avancer.
Exactement. Voilà. Vous citez à de nombreuses reprises également Marc-Alain Wachnin, dont je suis sûre que nos auditeurs seront sensibles à toutes ces références à la pensée juive. Rhinocérite 19, paru aux éditions Horizon dans la collection Littérature, une collection dirigée par Daniel Cohen, et un livre absolument étonnant et très intéressant. Rhinocérite 19, donc je conseille à nos auditeurs la lecture. Ça a été un plaisir de vous lire et de vous recevoir, Gérard Netter. Je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, et j'espère vous recevoir à nouveau pour un prochain livre. J'imagine que vous êtes déjà dans un nouveau projet, non ?
Oui, tout à fait.
Oui, déjà, vous pouvez nous en dire un mot, ou c'est trop tôt ?
C'est un peu trop tôt.
Alors on prend rendez-vous pour un nouveau livre dans quelques mois peut-être ?
Peut-être, avec grand plaisir.
Merci beaucoup, un plaisir partagé. Rhinocérite 19, donc signé Gérard Netter. Merci beaucoup Gérard Netter, et à très bientôt sur l'antenne de Radio Judaïque à Lyon. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir. Et je vous propose de découvrir maintenant la chronique de Nicole Skinazi-Teboul consacrée à ce mot qui a dû vous intriguer, le mot de rhinocérite. Bonjour Nicole.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot rhinocérite. C'est un nom féminin forgé par Eugène Lescot sur le mot rhinocéros, auquel a été ajouté le suffixe « it », caractéristique d'une maladie, d'une inflammation. Rhinocéros est le titre de la pièce de théâtre d'Eugène Ionesco. Rhinocéros vient du grec rhinokéros, de rhys qui signifie nez et kéras qui signifie corne. La rhinocérite est une maladie très contagieuse qui rend les gens insensibles à autrui. Cette maladie imaginaire transforme la personne atteinte en rhinocéros et cause une apathie. Le malade respire bruyamment et se met à grogner. Il devient vert et sa peau commence à durcir. Ses veines deviennent saillantes, sa voix devient rauque et des cornes apparaissent sur son front. Et il y a le livre de Gérald de Netter, Rhinocérite 19. Le livre raconte les livres qui brûlent, la parole et la raison malmenée, la relation rendue mutique et méthodiquement fracassée. Les mots qui sont à même de relier à autrui se brisent sous le coup d'un ennemi mystérieux. Les mots rendus impuissants à être prononcés font retourner à l'animalité, à la régression. Les gens vont se métamorphoser en rhinocéros d'Ionesco. Isaac, professeur de littérature comparée et spécialiste de la Renaissance, voit son cours boycotté. Il essaie d'organiser la résistance avec un groupe d'amis. Ses amis sont des personnages de romans, puisque cette littérature qu'Isaac enseigne est une littérature rêvée. Comme si la fiction pouvait permettre de s'attaquer aux mots interdits et à l'empêchement aux liens, ainsi qu'elle pouvait guérir de la rhinocérite 19, maladie de la dictature, de la pensée unique et du rejet. Le titre, Rhinocérite 19, fait écho à Covid-19, comme si le récit pouvait répondre du réel inouï que nous vivons depuis 2 ans. La Covid-19 serait-elle semblable à la rhinocérite 19? Nous avons nous aussi perdu un peu du lien à autrui, suite à toutes les restrictions. Nous nous sommes transformés, nous aussi. Les masques cachent nos visages. Nos corps et nos mains ne se rencontrent plus avec la légèreté qu'ils connaissaient avant. Nous nous devons de rester à distance les uns des autres. Un virus circule entre nous et nous menace. Quels rêves devrons-nous rêver à notre tour? Autour de quels mots pour que la vie avec la Covid-19 retrouve un espoir? Quel spécialiste de la Renaissance, de notre Renaissance, pourra permettre que se réinvente un meilleur réel? La lecture de Rhinocéris 19 ne nous permettra peut-être pas de répondre à ces questions, mais nous offrira un espace pour penser la pandémie face à la métamorphose monstrueuse et au délitement. À nous, il nous restera le lien et le langage. Ce sera notre chance indéfectible. Je vous remercie.
La cuirasse du rhinocéros le protège. Du rhinocéros contre les coups et les bosses, la cuirasse du rhinocéros le protège, le protège, la cuirasse du rhinocéros contre la vie qui cabosse. Mais est-elle assez solide cette cuirasse, cette cuirasse? Mais est-elle assez solide?